Nous suivons là depuis quelques dimanches en lecture suivie l'évangile de Matthieu, de saint Matthieu, et nous avons Jésus là qui est depuis quelque temps au temple. Nous sommes à la fin de l'évangile, Jésus va être condamné à mort, et nous sommes vraiment dans ces derniers temps où depuis quelques moments, Jésus est dans le temple, a chassé les vendeurs du temple, fait un petit peu le ménage, parle avec autorité et avec beaucoup de paraboles, renvoyant dos à dos les pharisiens, les publicains, les païens, les juifs. Et donc il y a cette atmosphère où les pharisiens là et les disciples d'Hérode cherchent un moyen à couper court à ces paroles fortes de Jésus, cette autorité, et ils essaient ils se concertent là pour trouver un moyen pour arrêter, stopper Jésus, condamner Jésus, le mettre, lui tendre un piège. Vous sentez cette technique des pharisiens qui, approchant Jésus, le qualifie de tout un tas de belles choses. « Maître, tu es toujours vrai, tu enseignes le vrai chemin de Dieu et tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. » Voilà comment les pharisiens perçoivent Jésus, et je pense que saint Matthieu prend plaisir à retranscrire ces qualificatifs justes de Jésus que les pharisiens emploient. Donc les pharisiens utilisent des qualificatifs justes de Jésus pour aborder Jésus. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Jésus sent tout de suite le piège. La réponse doit être oui ou non. Quelle que soit la réponse que va répondre Jésus, il sera condamnable. S'il répond oui pour l'empereur, il est condamné par les juifs. S'il répond non à l'empereur, il est condamné par l'empereur. Donc vous voyez bien que la question est finement posée et que Jésus est pris au piège. Alors Jésus le voit tout de suite et reconnaît en fait dans cette question l'hypocrisie des pharisiens. Les pharisiens connaissent déjà cette réponse. Bien sûr que les juifs paient l'impôt à l'empereur, César. Ils n'ont pas le choix, ils sont sous domination romaine, donc ils le savent, ils connaissent déjà la réponse. Mais Jésus veut vraiment répondre à cette question, et à chaque fois qu'il est en face à des interlocuteurs, face à des pièges qui lui sont posés, il ne répond pas par un piège. Et ça va être important dans notre vie spirituelle, Jésus ne nous tend jamais des pièges. L'homme a parfois le cœur partagé, c'est ce que nous demandons dans cette prière introductive de la messe, d'avoir un cœur sans partage. Le cœur partagé des pharisiens que vous sentez, Jésus, face à ce cœur partagé, à cette hypocrisie, ne va pas utiliser l'arme de ses adversaires pour les renvoyer à leur mesquinerie, à leur hypocrisie, mais il va vraiment répondre à cette question. En demandant quelle est l'effigie qui est sur la piécette et cette légende, ils répondent de l'empereur César. Et là, Jésus a cette réponse. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors là, je crois qu'il est important d'avoir les idées claires sur César, sur Dieu, l'autonomie, la dépendance, comment gérer finalement César et Dieu. Jésus, à travers cette réponse, et là je vais insister sur trois idées qu'il nous est important de retenir ce matin. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus n'oppose pas César et Dieu. César, c'est le pouvoir temporel, c'est à l'époque la domination romaine, aujourd'hui c'est la Ve République, aujourd'hui C'est un président, un ministre, un conseil, un sénat, une assemblée nationale. C'est tout ce qui constitue nos institutions républicaines, démocratiques. C'est le César d'aujourd'hui. Et Dieu, c'est Dieu. Celui qui fait partie du pouvoir spirituel. Donc il n'oppose pas, si vous voulez, César et Dieu. Jésus reconnaît l'autorité légitime de César. Il ne veut pas instaurer de confusion entre César et Dieu. Et ça, c'est important parce que pour les Juifs de l'époque, Jésus est ce Messie qui vient restaurer une royauté politique. Jésus n'est pas un super César, mais attention, César n'est pas un super Jésus. Il est important, voyez, d'avoir les idées claires et de, aujourd'hui encore, de bien distinguer le pouvoir temporel que Jésus ne met jamais en cause. Jamais Jésus ne prend parti pour un parti, mais il reconnaît cette légitimité du pouvoir temporel dans lequel tous les hommes doivent s'inscrire, et d'autre part, le pouvoir spirituel qui a toute sa place. Ça, c'est la première idée. Bien distinguer César et Dieu. La deuxième idée, c'est de ne rendre à César que ce qui est à César. Et c'est là qu'il est important de ne pas donner à César ce qui doit revenir à Dieu. Et c'est l'idée, c'est que face à cette distinction de César et de Dieu, il y a cette subordination de César par rapport à Dieu. Ça veut dire que le pouvoir de César, le pouvoir temporel, doit nous orienter vers le bien commun de tout pouvoir politique, et ce bien commun doit nous amener à Dieu. Ainsi, le pouvoir de César doit être orienté à Dieu. Il suffit de regarder l'histoire de l'Église pour nous rendre compte que les chrétiens ont été parfois martyrisés parce que justement César, le pouvoir temporel, demandait explicitement de renier Dieu et de considérer ce César comme Dieu. Et c'est là que le chrétien ne peut pas suivre César. Mais comprenez bien que ce pouvoir temporel doit être orienté et subordonné au pouvoir spirituel, à Dieu. Il est aussi intéressant de voir que dans l'Église, et Benoît XVI l'a rappelé, que la religion catholique n'est pas une religion qui vient imposer un pouvoir temporel sur ses institutions politiques. Mais justement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le pouvoir politique, tiré du bon sens, de la raison, va chercher dans la révélation des aides efficaces pour amener l'homme à Dieu. Ne rendre à César que ce qui est à César. La troisième idée, c'est rendre à Dieu tout ce qui est. Et là, pour bien comprendre cette idée, c'est de dire que, bien sûr que César a son autonomie, bien sûr que Jésus veut que nous respections les lois qui sont légiférées tant qu'elles sont en conformité avec tant qu'elles ne nous empêchent pas finalement, concrètement et explicitement, d'aller à Dieu. Mais nous comprenons aussi que César, ce pouvoir temporel, est soutenu lui-même par Dieu. Et pour bien comprendre ça, c'est la première lecture qui nous fait saisir cela. C'est Isaïe, lecture du livre d'Isaïe. Isaïe parle « Parole du Seigneur au roi Cyrus ». Le roi Cyrus, ce roi Cyrus, c'est ce roi de Perse qui va envahir toute la Palestine. C'est ce roi super puissant qui va envahir toute la Babylone, là où les Juifs sont en exil, et ce roi, en fait, est super puissant. C'est un roi très puissant. Nous sommes au moment de l'exil. Les Juifs sont en exil, ils ne sont plus sur leur terre, donc c'est la désespérance totale. Et Isaïe écrit ces lignes quand le peuple juif est délocalisé, prisonnier, n'a plus de racines, le temple dans lequel est présent Dieu est détruit. Donc Dieu, qui semblait être fidèle, n'est plus du tout fidèle. Ce roi Cyrus, qui est un roi complètement païen, super puissant, va envahir toute cette zone, et à chaque fois qu'il envahit une zone et qu'il prend domination de la zone, il libère les prisonniers. Parce qu'il sait que être roi puissant, le roi puissant, c'est celui qui libère les prisonniers et qui donne au peuple leur liberté. Vous voyez, ce n'est pas un roi de domination, c'est un roi qui libère. Et le prophète Isaïe le sait, ça. Et voilà le regard qu'il pose sur cet empereur qui n'est absolument pas croyant en Dieu, mais qui a une intuition politique très juste. Parole du Seigneur au roi Cyrus. Isaïe s'adresse aux Juifs exilés et parle de ce roi païen qui veut le bien des peuples. Parole du Seigneur au roi Cyrus, qu'il a consacré, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. Je pense qu'Isaïe a tout à fait compris, c'est la parole de Dieu, donc elle est là pour nous éclairer, pour nous dire combien Dieu, malgré le positionnement et les croyances de l'homme politique, Dieu vient soutenir, Dieu est celui qui soutient le pouvoir politique, le pouvoir temporel. Et que toute la bonne action de ce roi est due par cette présence mystérieuse de Dieu qui lui parle à travers sa conscience. Et là, effectivement, Dieu est présent d'une manière particulière dans ce pouvoir politique. Ça mériterait beaucoup plus de réflexion, et je vous invite, si vous voulez réfléchir un petit peu plus à cette distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, cette subordination, et en même temps de voir comment Dieu tient le pouvoir temporel, Dieu guide nos dirigeants politiques pour, une part, s'ils décident d'être à l'écoute de Dieu. Vous avez le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Un compendium, c'est un petit fascicule qui a été édité par l'Église pour nous expliquer, pour nous faire travailler sur ces combinaisons de pouvoir, pour bien avoir les idées claires, si vous voulez, sur ces histoires de pouvoir. Voilà, c'est un enseignement plutôt sur les pouvoirs politiques et le pouvoir spirituel. Je crois qu'il est important aujourd'hui d'avoir les idées claires, voyez, sur cette combinaison, cette alchimie entre les pouvoirs. Eh bien, c'est peut-être l'occasion pour nous, dans nos sociétés, dans nos familles, d'arriver à discerner ce que nous devons rendre à César, et uniquement à César, ce que nous devons rendre à Dieu, et toute cette réalité-là qui doit être ordonnée directement à Dieu, parce que chrétien, parce que désireux de suivre le Christ, qui n'est pas le Messie politique, mais qui est la lumière, et la lumière du temporel et du spirituel. Amen.